RMC, Intégral Tour. Christophe Cessieux.
La quatrième étape de ce Tour de France, une classique par jour depuis le départ d'Utrecht samedi dernier avec aujourd'hui, eh bien, ça ressemble vraiment étrangement à un certain Paris-Roubaix, la reine des classiques du mois d'avril, en plein mois de juillet, 28 km 700 de l'arrivée. Fred, on va faire un nouveau point pour savoir si tous les favoris de ce Tour de France sont bien à l'avant-garde du peloton à la bord d'un nouveau secteur pavé dans quelques instants.
RMC. C'est Top Course.
Et selon les spécialistes, le secteur pavé à venir sera le plus compliqué à négocier, le secteur de Saint-Piton, dans 2 km très exactement. Il reste 28 km 500 à parcourir pour un peloton d'une soixantaine d'unités, à l'avant duquel on trouve en ce moment les Astana de Vincenzo Nibali. 5 Astana, 5 Lotto Jumbo, une équipe néerlandaise, Lex Belkin, 5 Giant Alpecin, le maillot noir de John Degenkolb, le vainqueur du dernier Paris-Roubaix, et Alberto Contador, ainsi que Christopher Froome ou Quintana et Valverde, bien au chaud également. Tout est en ordre, il reste tout de même 3 secteurs pavés à franchir, il y a du dégât derrière, mais parmi les etc., aucun favori n'a été piégé pour l'instant. Ce n'est pas d'une souris que les pavés sont en train d'accoucher. On fera les comptes à la fin de l'étape, mais pour l'instant ça ne fait pas les dégâts que certains espéraient presque.
Oui, pas encore, et à signaler qu'il y a également 5 Cofidis avec Nasser Bouani.
Tony Galopin est également idéalement placé, il a perdu ses lunettes mais il est toujours là, il peut rêver d'or ce soir, de maillot jaune au moins.
Très bien, il est 17h sur RMC, on ne va pas passer les infos de 17h, vous les retrouverez tout à l'heure à 18h, mais là en plein milieu de la bagarre, on va rester concentré sur la route du Tour à 27 300 km, donc dans 1 km 300 maintenant, le secteur que Cyril caractérisait comme étant le plus dur aujourd'hui, alors que les coéquipiers d'Alberto Contador sont en train de durcir le ton à l'avant de la course.
Oui, c'est une course par équipe avec successivement à l'avant du peloton les Astana, les Lotto Jumbo, les Giant, et à l'instant la tenue camouflage pourtant très voyante au maillot jaune fluo des Tinkoff Saxo d'Alberto Contador. Contador qui a dans sa roue le maillot vert André Greipel, et sur la droite, trois positions derrière, Christopher Froome a dû monter quasiment sur le trottoir. En tout cas, il a frôlé la catastrophe, et quand il est revenu réintégrer le peloton par la droite, eh bien il a failli toucher la roue de Purito Rodriguez. Finale à tension, sous haute tension, à 26 km 500 de l'arrivée.
Et on rappelle que Chris Froome avait perdu ses espoirs de remporter un deuxième tour consécutif l'an dernier, justement dans cette étape de pavé, avant d'aborder les secteurs pavés, lorsqu'il avait chuté, mais les conditions climatiques étaient beaucoup plus scabreuses qu'elles ne le sont aujourd'hui. Tout le monde est en train de se placer, Cyril, pour entrer dans ce secteur pavé de Saint-Piton que tu connais bien et qui est assez redoutable.
Hein. Il est redoutable, il est en montée, surtout il y a les deux secteurs à suivre, ce qui fait pratiquement 5 km pratiquement de pavé, et là-dessus ça doit obligatoirement sauter, peut-être même avant pour Jean-Christophe Perrault, qui semble avoir du mal à s'accrocher au premier groupe. On a vu aussi que Contador était très grimaçant dans la roue de ses équipiers. Froome qui arrive à bien se placer, a failli aller par terre tout à l'heure. Donc ça y est, on y est.
Jean-Christophe Perrault distancé à 26 km de l'arrivée, avant même d'entrer dans ce secteur pavé de Saint-Piton. Ce sont les maillots blancs et jaunes de l'équipe néerlandaise Lotto Jumbo qui prennent les choses en main. Derrière, ça va remonter avec Tony Galopin en deuxième position.
Nibali qui remonte sur le côté gauche.
Tony Galopin en deuxième position qui s'écarte sur la gauche de la roue et qui manque d'emmener Vincenzo Nibali dans le talus.
Oui,
Nibali,
il tient bien la route. Hein.
Nibali qui a posé sa main droite sur la fesse gauche de Tony Galopin.
Nibali qui accélère.
Nibali qui se met en tête du peloton dans ce secteur pavé, avec dans sa roue monsieur John Degenkolb, le vainqueur du dernier Paris-Roubaix, le vainqueur de Milan-San Remo.
Nibali qui est vraiment impressionnant, alors que me semble-t-il Chris Froome est pour l'instant lâché par la tête de course, me semble-t-il. Il est là, mais en 20e position environ.
Oui, mais Contador n'est que 15e. C'est seulement Nibali qui est en train de faire le forcing. Nibali qui a bien compris dans les secteurs
et
pavés
Quintana
précédents.
Qui essaie de se rapprocher aussi.
Eh oui, on fait de la résistance, mais Nibali fait le forcing, lui, parce qu'il sait qu'il est supérieur à la concurrence
et il
sur les secteurs
avec
pavés.
Kolb, qui peut être un redoutable compagnon d'échappée hein, dans ces derniers pavés.
Degen Kolb qui prend le relais, effectivement, alliance de circonstances. On attaque là où on peut, là où on est supérieur à la concurrence. Et sur ce terrain scabreux, sur les pavés, Nibali est plus fort que des Contador, des Quintana ou des Christopher Froome, qui en profite. L'As, le dossard numéro 1 du Tour de France.
Voilà, Nibali qui vient d'être relayé par l'un de ses équipiers qui durcit le tour. Mais il me semble que Chris Froome a pu et est toujours dans le groupe Nibali. En
tête
de course à 25 km de l'arrivée désormais.
25 km de l'arrivée, Jakob Fuglsang, le Danois deuxième de l'étape des pavés l'an passé sur ce même Tour de France, est en train d'emmener le peloton avec Monsieur Signore Vincenzo Nibali dans la roue. Nibali qui ne se fait pas prier pour prendre le relais, bien accompagné également par Warren Barguil, coéquipier de John Degenkolb. Warren Barguil qui est un excellent grimpeur, qui découvre le Tour de France, lui qui était néo-pro il y a encore 2 ans. Warren Barguil qui se fait le plaisir d'être en tête du peloton.
Incroyable.
À 25 km de l'arrivée. Sensation pour ce néophyte du Tour de France, originaire de Bretagne, qui a dans sa roue Vincenzo Nibali. Un peu plus loin, on aperçoit Alberto Contador et Christopher Froome.
Voilà, Barguil, coureur de Tour, grimpeur, Cyril. Mais quand on est breton, on a l'habitude de ce genre de terrain, même s'il n'y a pas des pavés en Bretagne. Mais les ribines, ça ressemble un petit peu quand même.
On ne s'entraîne pas dessus. Hein. Non, il a surtout de la force dans la jambe, c'est ce qu'il faut bien signaler.
C'est vraiment pour l'instant la révélation française de ce Tour de France.
Ah, pour l'instant, oui.
Même si on le savait, hein, on savait que c'est un garçon redoutable et on l'attendra encore un peu plus à partir de la semaine prochaine en montagne. Mais là, c'est lui qui a emmené le peloton du Tour de France avec tous les cadors dans sa roue il y a quelques instants. Fred, le peloton qui va sortir dans quelques instants donc de ce secteur de Saint-Piton.
Oui, avec un Astana et un Tinkoff Saxo qui sont en train de reculer. C'est normal, ils se sont dépouillés pour leur leader Nibali et Contador. On est en train de perdre des éléments dans ce premier peloton où, on le rappelle, il ne manque aucun favori. 24 km de l'arrivée, les maillots jaunes fluo de la Tinkoff Saxo sont en train d'emmener grand train, relayé sur la droite de la route par 4 coureurs de l'équipe BMC. BMC qui vise l'étape peut-être avec Van Avermaet, mais aussi le maillot jaune pour ce même coureur belge, Greg Van Avermaet, qui est ce matin 5e au général à 28 secondes de Christopher Froome. Mais il faudra lâcher Froome aujourd'hui. Froome qui fait de la résistance et qui tient bon sur les pavés.
Alors à signaler, Christophe, que logiquement la sélection devrait se faire de façon plus nette, mais nous avons un vent de face, donc il y a énormément d'abris.
Voilà, avec un nouveau secteur pavé. Là, ça s'enchaîne deux consécutifs, le secteur pavé de Fontaine au Tertre à Kievi. L'enchaînement pourrait Cyril faire mal à tous ceux qui sont un peu limites dans ces pavés.
Oui, Van Marck a mis l'accélérateur, il a mis le turbo sur cet avant-dernier secteur pavé. Mais comme je le dis, avec le vent de face, il y a beaucoup d'abris, donc ça ne casse pas.
Seb Van Marck, spécialiste des courses flandriennes, qui est en train de taper du poing sur la table dans cet avant-dernier secteur pavé de cette étape de Cambrai, l'étape la plus longue avec ses difficultés. Ce groupe de tête est toujours composé d'une 60aine d'unités et en serre-fil en dernière position, Dossard 21 et maillot FDJ sur le dos, Thibaut Pinot les mains sur les cocottes, qui tente de résister au forcing de Seb Van Marck. Très juste remarque de notre druide, ça ne casse pas dans ce groupe de tête parce que le vent est de face et parce qu'on est bien à l'abri. Et Vincenzo Nibali l'a bien compris, lui qui a mis le nez à la fenêtre, qui a pris de longs relais dans le secteur pavé numéro 3 il y a quelques minutes, il a bien compris que ce serait très dur aujourd'hui de faire casser ce groupe des favoris.
Oui Cyril, ça va être compliqué, il n'y aura probablement pas d'écart de fait, pas de bonus ou de seconde glanée par Nibali ou Contador sur Chris Froome aujourd'hui.
Hein. En plus il n'y a pas de chute.
Non, c'est vrai, ce sont des
Froome a failli.
Mais tu as l'air déçu quand tu dis ça. Non mais je rêve.
Non mais souvent les chutes sont des éléments importants sur les passages pavés et qui créent effectivement ces cassures et donc qui augmentent la difficulté de la course. Mais pour l'instant on est passé très près, Nibali est passé très près avec Galopin. On a vu le maillot jaune, ça tient du miracle, donc il comme il n'y a pas ces chutes et qu'il y a justement ce vent de face, il y a beaucoup d'abris. Donc on arrive à rester au contact, même si on n'est pas un grand spécialiste. Bon, à partir du moment où c'est le Tour de France, ben on se fait mal aux jambes, on se fait mal aux fesses, on se fait mal partout, mais on tient.
Oui, alors pas de chute et pas d'incident mécanique.
Et pas de crevaison non plus,
hein. Très peu de crevaison, sauf Alexander
leur
Christophe.
Leur portait pas la poisse, leur portait pas la poisse.
Alexander Christophe et Lars Boom, hein. On a signalé tout à l'heure, alors qu'il était en tête du peloton.
Non, mais parmi les favoris, je veux
dire. Oui, Lars Boom, vainqueur de l'étape de l'an passé à Arenberg, l'étape pavée qui ne refera pas le coup de 2014. On est dans l'avant-dernier secteur pavé du jour et ils sont encore une soixantaine dans ce groupe des favoris. Thibaut Pinot est toujours là, il navigue dans les dernières positions. Il n'est pas sur son terrain de prédilection, au contraire, des solides gabarits de BMC qu'il s'appelle Danielos ou Manuel Quinzato. Attention,
Thibaut Pinot
toujours en dernière position de ce groupe des favoris qui a eu un problème de dérailleur, semble-t-il. Il repart, il va recoller à l'arrière si tout va bien. Il a les mains en haut du guidon, il regarde tout de même son plateau, son dérailleur. Il est en train de décrocher. Thibaut Pinot qui a des problèmes,
un problème mécanique.
Il lève la main droite, il appelle sa voiture. Thibaut Pinot, il est peut-être en train de perdre une place dans le top 10 du Tour de France sur les Champs-Élysées. Désormais, c'est Nairo Quintana qui ferme la marche de ce groupe des favoris à 21 km de l'arrivée. Thibaut Pinot à l'arrêt sur l'avant-dernier secteur pavé du jour.
C'est terrible, hein, c'est terrible, Cyril. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Thibaut Pinot qui a eu tous les malheurs du monde, sauf le premier jour à Utrecht. Mais là, décidément, le sort s'acharne contre lui avec la chute de l'un de ses équipiers devant lui hier. Aujourd'hui, cette crevaison au plus mauvais moment. Décidément, c'est pas son
tour. Problème plutôt mécanique, mais bon, quand ça ne veut pas le faire, ça ne veut pas le faire. Quand les circonstances vous amènent à ce genre de choses, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a plus qu'à attendre que le vent tourne.
Bah oui, mais pour l'instant, il ne tourne pas dans le bon sens. Pour Thibaut Pinot, quand on perd du temps comme ça, une crevaison, Lucho, à ce moment-là, dans le money time d'une étape, on perd combien de temps là, avant d'être...
Vu qu'il est tout seul et qu'il n'a plus aucun équipier, il peut perdre facilement au moins 2 minutes.
Oui, mais c'est pas la voiture qui va le dépanner, puisque...
C'est la moto
doit être 16e voiture.
C'est l'inconvénient d'ailleurs.
16e voiture, il ne peut être dépanné que par... un équipier si c'est une crevaison. Si c'est un problème de vélo, ça va être encore plus compliqué.
Ouais, parce qu'il y a tellement de voitures intercalées entre les coureurs qui sont lâchés, les voitures n'ont pas le temps de remonter derrière le groupe de tête. Donc automatiquement, Thibaut Pinot n'a plus sa voiture et va être dépanné par la voiture Mavic ou la moto Mavic au niveau de la route.
Voilà, il a récupéré, il est foudrage Thibaut Pinot. Il est secouru par l'un de ses mécanos, mais il est en train de s'énerver.
C'est un vélo qu'il faut, c'est pas
il lui faut un vélo et pas une roue. C'est ce
qu'il
est
en train de dire. Il n'a pas crevé, il a un problème avec le dérailleur avant, me semble-t-il, Thibaut Pinot qui est en train de discuter avec un membre du staff de la FDJ, quelqu'un qui est positionné très tactiquement sur les secteurs pavés, mais ce pauvre homme
n'a que deux roues, il n'a pas de vélo,
une dans chaque roue, il n'est pas mécano et il n'a pas de vélo de rechange, effectivement.
Non, mais c'est interdit le vélo.
Sortie de l'avant-dernier secteur pavé du jour à 19 km 500 de l'arrivée. Les Tinkoff Saxo avec Alberto Contador en tête du peloton qui vient discuter avec son coéquipier Daniele Benatti. Peter Sagan, autre Tinkoff Saxo, s'entretient avec le grimpeur espagnol. Dans leur roue, Christopher Froome, Vincenzo Nibali. On est en train de ralentir le rythme, mais Thibaut Pinot, lui, est toujours en souffrance dans le secteur pavé. Il n'est toujours pas sorti de ce secteur pavé. Il a pris le temps d'engueuler le membre du staff. Il est dépité.
Il est dépité, mais il continue malgré tout. Cyril, son vélo a un problème mécanique, mais il lui permet tout de même de rouler quand même. Hein.
Oui, mais apparemment, quel problème mécanique a-t-il?
Je sais pas. En tous les cas, il a beaucoup de retard. Hein. Au moins 2 minutes de retard facilement sur l'avant-garde du peloton emmené par l'équipe Saxo-Tinkoff. 19 km de l'arrivée. On va s'interrompre quelques instants. Revenir ici pour le final de cette étape. Il reste encore un secteur pavé. On va retrouver la moto RMC dans un instant. Secteur pavé, donc le dernier au kilomètre 13 avant l'arrivée. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Et dans un peu moins de 3 km maintenant, le dernier secteur pavé de cette quatrième étape du Tour de France entre Seraing en Belgique et Cambrai. Les pavés de Paris-Roubaix pour les coureurs du Tour de France qui ont fait pas beaucoup de dégâts en ce qui concerne les favoris, Fred. Mais en revanche, le grand battu du jour, une nouvelle fois, c'est le troisième jour consécutif. Le grand battu du jour se nomme Thibaut Pinot. Ce n'est pas une faute de jambes aujourd'hui, c'est faute de vélo.
Non, les deux, mon capitaine. Thibaut Pinot était très court, mais il aurait tenu, c'est vrai, parce que le rythme été pas extravagant. En tout cas, le vent de face n'a pas permis les cassures qui avaient été occasionnées par la pluie l'an passé sur cette même étape pavée en direction d'Arenberg. Cette fois, elle s'achèvera à Cambrai dans 15 km très exactement. Thibaut Pinot qui navigue à plus de 2 minutes 15 du groupe de tête où l'on trouve tous les favoris. Un groupe de tête composé désormais d'une cinquantaine d'unités. Thibaut Pinot attardé sur problème mécanique dans l'avant-dernier secteur pavé du jour.
Le dernier secteur pavé, ce sera dans 1 km 800 d'Avennes-les-Aubers à Carnières, 2300 mètres à parcourir sur les pavés. La moto RMC se trouve juste à l'entrée du secteur pavé. Georges, à quoi ça ressemble? Est-ce que ça peut faire la différence à ton avis dans les minutes à venir?
Oui. On vient de le passer même, Christophe, avec la moto, le dernier secteur pavé. Il est vallonné, ça monte, ça descend, ça va aller vite hein, sur ce secteur. Par contre, il n'est pas du tout humide, complètement sec. C'est très poussiéreux sur ce secteur pavé. Ça va aller très vite dans quelques instants. On a vu des mécanos hein, un petit peu partout avec des roues prêtes à des courants. Énorme voiture de directeur sportif tellement présent à la sortie. Eh bien, pour les peut-être. Dans le dernier secteur et ensuite c'est un gros vent de face là qui attend les coureurs sur la fin de ce parcours.
Merci Georges, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui vous pouvez gagner le jeu de société d'échappée infernale, le livre Parlons Vélo de Marc Médio et surtout une place VIP pour l'étape du 19 juillet entre Mende et Valence, nuit en hôtel 4 étoiles, transport aller-retour depuis votre domicile, tour de vélo matinal avec un ancien gagnant et votre accès VIP privilégié au village départ et au car club, la cerise sur le gâteau, 20 minutes de vol en hélicoptère pour tenter de gagner ce pack cadeau. Vous appelez le 3216, touche 6 ou envoyez RMC par SMS au 732. Bonne chance.
Skoda vous emmène sur les routes du Tour. Skoda, partenaire officiel du Tour de France.
13 km 700 de l'arrivée dans 700 mètres. Le dernier secteur pavé de cette journée va-t-il faire la différence, Fred?
Un secteur pavé long de 1800 mètres. Probablement pas de grande différence puisque les secteurs pavés les plus compliqués viennent d'être franchis. Les coureurs de l'équipe BMC, coéquipiers de Greg Van Avermaet, 5e du général ce matin, sont en train d'étirer le peloton. Les Sky sont particulièrement vigilants. Christopher Froome va attaquer ce dernier secteur pavé en 5e position dans la roue des BMC et dans la roue de son coéquipier Geraint Thomas. Les bêtes à rouler, les machines de guerre sont sorties à 13 km de l'arrivée. Danielos, Manuel Quinzato, les solides gabarits de l'équipe américaine BMC emmènent dans leur roue Greg Van Avermaet ou le coureur très complet TJ Van Garderen. Valverde est en 3e position, Tony Galopin en 5e. Galopin qui pointe à 26 secondes de Christopher Froome au classement général, mais tous les favoris sont là. On rappelle Thibaut Pinot à la dérive à plus de 2 minutes de ce groupe de tête.
Voilà Thibaut Pinot qu'on a vu il y a quelques instants montrer des signes vraiment d'agacement, d'énervement. Il avait réussi à rester accroché, Cyril, à la roue des grands favoris. Certes, il était en difficulté, mais il se maintenait dans ce groupe de tête. Et là, il a été victime vraiment de la malchance aujourd'hui. Là, maintenant, il est complètement hors jeu pour la victoire, pour le podium, pour le top 10 probablement.
Il y a la cabane sous le chien.
Hein. Il a la cabane sous le chien,
ça c'est vrai. Il était très limite, c'est vrai. Mais normalement, il aurait dû arriver à basculer. Et ensuite, il y avait la partie bitumée. Ça lui aurait permis d'attaquer le dernier secteur dans le premier groupe. Alors, qu'est-ce qu'il a eu? Je ne sais pas. Apparemment, donc c'est pas une crevaison, ça c'est sûr. Ouais. Donc, un problème mécanique.
Dérailleur, à mon avis, Cyril. Hein. Tout à droite, alors, la chaîne était sur le plus petit pignon. Peut-être ne bougeait-elle pas.
Alors, comment expliquer qu'on ait mis tant de temps à le dépanner, Cyril? Explique pour ceux qui ne comprennent pas.
Si c'est un problème mécanique, il ne peut être dépanné. C'est-à-dire que s'il doit changer de vélo, c'est soit avec un équipier, mais faut-il encore avoir un vélo à sa taille, un équipier à sa taille à côté de lui. Sinon, vous ne pouvez changer que... Parce qu'on a vu, il y a des assistants qui étaient là avec des roues, mais vous ne pouvez pas changer de machine par l'avant. Le dépannage par l'avant est interdit. Donc, à part les roues, mais si vous devez prendre un vélo, il faut le prendre sur votre voiture. Voilà, et attaque de Nibali.
Michel de Nibali, vainqueur du dernier Tour de France, qui plante une attaque là, 11 km 600 d'arrivée, Fred.
Ouais, c'est sa dernière chance de faire des différences. Le vainqueur sortant du Tour de France, lui qui avait effectué une démonstration l'an passé sur cette étape des pavés en direction d'Arenberg. Cette année, les pavés sont secs en direction de Cambrai et c'est beaucoup plus compliqué de faire des différences. Vincenzo Nibali, champion à Panache, qui attaque dans les descentes, qui attaque loin de l'arrivée et qui attaque sur les pavés. Nibali qui rentre dans le rang alors que alors qu'un coureur de l'équipe Hectic Quickstep, il me semble que c'est Zdeněk Stybar, le champion tchèque spécialiste de Paris-Roubaix, qui est en train de faire le forcing, parce que Stybar sait qu'il aura bien du mal face au sprinter. Il y a encore Greipel, il y a encore Degenkolb, il y a encore Bouhanni dans ce groupe de tête. C'est donc l'heure, le moment ou jamais pour faire la différence en ce qui concerne les solides coureurs de pavé que sont Stybar ou Greg Van Avermaet. Mais Degenkolb veille au grain. Degenkolb en 3ème position.
Attention, Nibali qui a été lâché me semble-t-il par le maillot jaune, Chris Froome qui remonte en tête de course alors que le champion d'Italie, vainqueur du Tour de France, est un petit peu derrière.
Oui, à peine 10 mètres à peine, en tout cas il y a effectivement un petit trou entre Christopher Froome qui se défend très bien, tandis que c'est Geraint Thomas, son coéquipier de la Sky, qui va sortir de ce dernier secteur pavé en tête. Christopher Froome qui a parfaitement été téléguidé par ses équipiers au cours de cette journée pavée. Démonstration cette fois de Christopher Froome, lui qui n'avait pas vu un pavé l'an passé, il avait abandonné le Tour ce jour-là.
Mais Nicolas Portal, son directeur sportif, confiait hier à nos reporters qu'il adorait les pavés, qu'il avait été frustré l'an dernier et qu'il adorait rentrer à bloc là-dedans. Cyril, il nous impressionne une nouvelle fois aujourd'hui.
Oui, oui, beaucoup de volonté, beaucoup de courage. Un groupe qui vient quand même de se détacher, emmené maintenant par les équipiers du maillot jaune. Et il n'y a pas dans ce groupe.
Pas de Contador.
Il n'y a pas de Contador dans ce groupe. Il n'y a pas de Quintana.
Quintana, il était carrément à l'arrière du groupe.
Effectivement,
dernière position.
Ils ne sont que deux dans ce groupe, que deux des fantastiques, pourrait-on dire. Chris Froome, le maillot jaune, et Vincenzo Nibali. Certes, les autres ne sont pas très loin derrière, Fred, mais bon, à 9 km de l'arrivée, ça peut faire quelques petits écarts, encore une fois aujourd'hui.
Oui, et c'est Peter Sagan qui essaye de ramener Contador de l'arrière.
Oui, mais Contador n'est pas immédiatement dans le sillage de Peter Sagan. Sagan joue peut-être sa carte aujourd'hui, lui qui rêve d'une victoire sur cette étape pavée, il ne dénoterait pas ici en levant les bras sur la ligne d'arrivée à Cambrai. Où est Contador? Bien plus loin en tout cas bien plus loin que Geraint Thomas, qui emmène tambour battant Christopher Froome, Greg Van Avermaet, Zdeněk Stybar, John Degenkolb, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali et TJ Van Garderen. Voilà un groupe de 8 coureurs. Accélération à l'instant du maillot jaune à 9 km de l'arrivée. Christopher Froome
a compris qu'il fallait
enterrer son rival espagnol aujourd'hui.
Exactement, Chris Froome, la science de la course cycliste, évidemment. Il accélère, mais on tarde à prendre les relais. Il demande à ses compagnons d'échapper, de prendre le relais.
Oui, Luc, il veut pas, il y a le BMC dans sa roue et il a dit si tu veux rouler, si tu veux faire la différence, t'as qu'à rouler toi-même, mais je vais pas rouler pour toi. Ouais. Donc Chris Froome qui est en train de se remettre au milieu du paquet du groupe de tête.
Et dans le deuxième groupe, c'est toujours, me semble-t-il, Peter Sagan qui est en train d'essayer de ramener tout ça, non Fred?
Non, Peter Sagan vient de s'écarter pour venir voir si Alberto Contador était bien dans le deuxième groupe qui pointe maintenant à 5 secondes seulement. Il n'y aura pas de différence. Ce deuxième groupe, où figure Contador, ce deuxième groupe va rentrer dans quelques instants, bien aidé par ses équipiers de la Tinkoff Saxo. Décidément, Alberto Contador pourra les remercier ce soir, les maillots jaunes de Daniele Benatti, de Michael Rogers, de Roman Kreuziger. Contador qui va sortir sans dégâts de cette étape pavée. Il reste quelques secondes d'avance pour le groupe des 8 coureurs de tête, mais a priori tout devrait rentrer dans l'ordre dans les hectomètres à venir.
Dommage Chéri, il y avait peut-être un coup à faire, mais on ne s'est pas entendu
Il y avait des coureurs dans ce groupe qui n'avaient pas intérêt à rouler puisqu'ils attendent l'arrivée au sprint, comme Degenkolb. Il y avait également Valverde ne va pas rouler, il a Quintana à l'arrière.
Et oui, bien
donc
sûr.
On va vers un regroupement et peut-être vers une victoire française.
Alors oui, une victoire française, pourquoi? Parce qu'il reste évidemment
des sprinters français.
Il y en a deux là, me semble-t-il. Bouhanni et Coquard, est-il toujours là?
Oui, Coquard est là, Bouhanni est là.
Bouhanni est là et Coquard est là. Est-ce qu'ils sont intrinsèquement plus rapides que Degenkolb, vainqueur du dernier Paris-Roubaix?
Je pense que Bouhanni, oui, peut-être un petit peu.
Oui, mais alors lequel est le plus vite, Bouhanni ou Coquard?
En ce moment, c'est plutôt Brian Coquard, si l'on se fie à l'état de santé de Nasser Bouhanni. Mais Bouhanni, s'il a été capable de résister aux vibrations des secteurs pavés après sa chute il y a 10 jours sur les championnats de France, c'est que ça va beaucoup mieux. Il l'avait dit de toute façon dès le lendemain de sa chute au championnat de France à Chantonnay en Vendée: il me faudra 10 jours pour retrouver ma pleine puissance. puissance, mon intégrité physique. On est pile poil à 10 jours aujourd'hui et il a passé le plus dur, les pavés.
Fred, je voudrais savoir à combien est le deuxième groupe du groupe du maillot jaune.
Eh ben ça, on ne le sait pas, mon petit.
Voilà. Non, parce que je crois que Greipel est dans le deuxième groupe.
Il est à la rue.
Il est dans le même groupe.
Non, il n'est pas dans la rue, il est dans le deuxième groupe.
Ouais, il est loin. Il est à la rue, c'est bien ça.
Il est à la rue. Ouais, mais attends, tu sais pas la différence qu'il y a entre les deux groupes.
Il y a plus d'une minute.
Il y a plus de deux minutes même.
Ah ouais, dans Paris-Roubaix,
les écarts. Quintana est passé.
Quintana réussit.
Barguil est passé. Bardet est passé.
Ah ben voilà des bonnes nouvelles. Voilà. Il nous reste quand même quelques
points. Et Boigny a plusieurs équipiers.
Eh ben voilà des bonnes nouvelles. On va avoir peut-être une victoire d'étape française.
Attends, on est à moins de 7 km de l'arrivée. On a quand même le droit de vibrer.
Mais bien sûr qu'il faut vibrer. On vibre sur l'intégral tour avec le druide, avec Lucho, avec Fred, avec Georges, avec tout le monde.
Perrault est là aussi.
On va essayer de voir qui sont les principaux favoris dans ce groupe de tête, Fred.
Alexander Christophe avait crevé. Cyril, est-ce que tu me confirmes qu'il a réussi à rentrer, lui qui avait crevé à une trentaine de kilomètres de l'arrivée? Si Christophe est dans le coup aujourd'hui et dans le premier groupe, ça risque d'être compliqué de le battre, même si on a des sprinteurs de la Trempe, de Coquart ou de Gencol. Bah, la réponse, non, Christophe est avec le maillot vert André Greipel. Eh bien, il y a des sprinteurs qui vont manquer l'occasion aujourd'hui à Cambrai. Les favoris vont donc s'appeler Bouhanni ou Degenkolb ou Coquart. Pendant ce temps-là, à 6 km de l'arrivée, Romain Bardet est en tête du premier groupe avec dans sa roue Geraint Thomas, Warren Barguil, Roman Kreuziger, Alejandro Valverde, Greg Van Avermaet, Yann Bakelange, John Degenkolb est 9e et on aperçoit le maillot de champion de Norvège. Attention à lui, Edvald Boasson Hagen, déjà vainqueur de plusieurs étapes sur le Tour de France.
Et surtout, il faut signaler que le dernier kilomètre est sur une ascension d'à peu près 3%.
Ah
avec
oui,
même des passages privés, oui.
Oui, une ascension,
des
c'est un bien privés. Grand mot, c'est un
peu plus. Mais je veux dire, pour tous les sprinteurs vont passer là-dedans après.
Oui, Coquart, il passe.
Sans aucun problème.
Mais peut-être pour Coquart qui est.
Peter Sagan passe aussi.
Ah oui, n'oublions pas Peter Sagan
qui est en avant-garde, passe aussi.
Allez, on va dire que les favoris s'appellent Degenkolb, Sagan, Coquart, Bouhanni. En vois-tu un autre, Cyril?
Sagan, mais qui me paraît avoir un peu mal aux jambes. Là,
et
sur
il a
le
beaucoup
final.
Travaillé pour
et
Alberto
Contador. Van Avermaet est pas mal sur ce genre d'arrivée.
Très bien.
On pourrait même ajouter sur ce type d'arrivée le champion d'Espagne, Valverde.
Messieurs, rien ne va plus, faites vos jeux. Nous sommes à 5 km 300 de l'arrivée.
Cavendish est dans le coup.
Ça c'est la tout. C'est
ouais,
la
ça va être dur quand même la dernière bosse. Mais vous savez qu'il y en a un qui va bien dans ces arrivées là aussi. Eh bien, c'est le Français de l'auto.
De l'auto Galopin.
Exactement, Tony Galopin, puncher, qui peut peut-être tirer son épingle du jeu. Bref, il y a du beau monde quand même pour jouer la victoire d'étape à 5 km maintenant. Ce sont toujours les coéquipiers de Chris Froome qui assurent le tempo en tête de groupe, avec Chris Froome quasiment en tête, en deuxième position de ce peloton. Il est devenu depuis hier le patron de ce Tour de France et il va être difficile à déloger. Ça va être difficile de lui enlever ce beau maillot jaune des épaules de Chris Froome. 4 km 700 d'arrivée.
Il faudrait que Tony Martin prenne une bonne if.
Il faudrait, mais qu'est-ce qu'il a laissé comme énergie, Tony Martin, lui qui a été victime d'une crevaison tout à l'heure. Il est capable, comme Cancellara l'avait fait lors de la deuxième étape, de se mêler à un sprint final. C'est exactement le même type de coureur que le Spartacus de l'équipe Trek, Fabian Cancellara, qui avait sauté Cavendish pour aller prendre les bonifications et endosser le maillot jaune. Tony Martin, qui est là en 20e position dans ce groupe de tête qui ne compte plus que 50 coureurs, on vous le rappelle. On mange encore à 4 km de l'arrivée. Christopher Froome, qui n'a pas eu le temps de mettre la main à la poche sur les secteurs pavés, est en train de récupérer en deuxième position de ce groupe de tête dans la roue de son équipier Geraint Thomas.
Et ils sont combien environ, Fred, là?
Une grosse quarantaine.
Ouais, une grosse quarantaine.
Petite quarantaine.
Ouais, petite quarantaine de coureurs.
Allez, on va faire le tour donc des coureurs présents capables de viser la victoire. On rappelle tout de même la principale information du jour, c'est Thibaut Pinot relégué à l'arrière sur incident mécanique dans l'avant-dernier secteur pavé. Lui qui tenait bon, qui ne montrait pas de gros signes de super forme et de super confiance, mais qui a été victime d'un incident mécanique. Il s'est arrêté, ça a duré de trop longues secondes, près de 2 minutes même, dépité. Il est à 3 minutes désormais dans un deuxième groupe emmené par ses coéquipiers coéquipiers de la FDJ. Dans ce deuxième groupe, on a deux sprinteurs qui sont out pour la victoire d'étape aujourd'hui. On va les oublier en les mentionnant une dernière fois. André Greipel et Alexander Christophe qui ne seront pas vainqueurs d'étape aujourd'hui.
Voilà, Thibaut Pinot, la tête des mauvais jours, on l'a vu très très énervé tout à l'heure et on le serait à moins évidemment, Lucho, quand on est comme ça piégé dans un secteur pavé sans être dépanné et un de vos mécanos qui arrive avec deux roues alors que c'est pas un problème de roue, il y a de quoi devenir fou hein, dans ces cas-là. Hein.
Ah oui, non mais c'est complètement fou et puis d'autant plus que bon, bah, c'est pas le jour où il fallait que ça arrive, surtout sur cette étape de pavé où les voitures n'ont pas le temps de remonter. C'est très étroit, ses équipiers étaient complètement éparpillés aussi.
Ah, une attaque de Martin. Tony Martin qui veut chercher le maillot jaune, évidemment. Il n'est qu'à 6 centièmes derrière Chris Froome. Est-ce que Chris Froome n'a pas intérêt à le laisser partir?
Il va pas rouler dessus.
Non, il va rouler dessus.
C'est un peu tôt quand même pour Tony Martin.
Ah, mais c'est un formidable rouleur.
Oui, mais il y a le dernier kilomètre.
Regarde derrière, Cyril, regarde. On a la réponse. 3 km de l'arrivée. Attaque de Tony Martin qui pointe à 1 seconde au classement général de Christopher Froome. C'est bien Guérin Thomas, coéquipier de Christopher Froome, avec le maillot jaune dans sa roue, qui roule. Il roule Guérin Thomas, mais c'est davantage pour protéger Christopher Froome et le maintenir dans les premières positions. Il n'a pas pris en chasse Tony Martin. Qu'est-ce que ce sera dur de revenir sur cette machine à rouler.
Non, ça va revenir. Vous avez les Giants qui ont mis en route, vous allez avoir les Cofidis qui vont mettre en route.
Tony Martin, excellent rouleur qui a manqué le coche à deux reprises pour endosser le maillot jaune. Lui, le champion allemand qui n'a jamais été leader du Tour de France. Il en rêvait lors du contre-la-montre inaugural d'Utrecht. Il reste 2,5 km à parcourir. Tony Martin s'est mis en position de contre-la-montre. Les coudes sur le cintre, il peut se retourner. Il a une centaine de mètres d'avance. Mais ce sont les Giants Alpecin de John Degenkolb qui roulent à l'avant du peloton et qui maintiennent Tony Martin à portée de fusil.
2,3 km de l'arrivée pour le formidable rouleur allemand, ancien champion du monde du contre-la-montre, qui tente de résister au retour du peloton et donc à cette équipe de Degenkolb qui veut lui aussi rééditer un exploit, celui qu'il avait décroché ici même, enfin pas ici même mais pas très loin, à Roubaix au mois d'avril en remportant Paris-Roubaix.
Ça roule pas tant que ça derrière, hein. ça coince un peu là.
Ce sera dur de rentrer.
Il n'y a que 7 secondes. Hein.
Ce sera dur de rentrer sur Tony Martin si on ne s'entend pas mieux que ça. Passage sous la banderole des 2 km avec toujours un Giant Alpecin, coéquipier de Degenkolb, qui emmène le peloton avec dans sa roue le champion d'Espagne Alejandro Valverde. Tony Martin qui vient de rentrer dans des portions plus techniques. Pif, paf, ça tourne à droite, à gauche, ça passe sous un pont. Ce n'est pas dans ces portions-là techniques que Tony Martin perdra du temps sur le peloton. Attention, Tony Martin qui est peut-être lancé à la conquête de son premier maillot jaune, lui le trentenaire allemand qui aperçoit désormais la flamme rouge du dernier kilomètre.
La flamme rouge du dernier kilomètre dans quelques instants pour Tony Martin, l'ancien champion du monde du contre-la-montre, qui livre un contre-la-montre justement face au reste du peloton. Il a plus de 7 secondes d'avance maintenant, avance maintenue sous la flamme rouge pour Tony Martin.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Le suspense dans cette quatrième étape pour la victoire d'étape. Tony Martin va-t-il réussir à résister au peloton?
6 secondes.
Cyril le disait tout à l'heure, le dernier kilomètre est en souffle à montant, ça va être difficile.
7 secondes d'avance pour Tony Martin à 900 mètres de la ligne d'arrivée. Il vient de passer des secteurs symboliques, des secteurs de ville parfaitement bien damés. La gueule de grognard, de
ça va le faire pour lui.
Comment on appelle ça, les gens de la mine? De mineurs, évidemment. Pardon pour cet oubli. 600 mètres de la ligne d'arrivée pour Tony Martin qui peut se retourner. Il a gagné, semble-t-il.
Bravo.
C'est impossible. C'est impossible de revenir sur un tel rouleur dans un final quand on n'est pas organisé mieux que cela. Tony Martin, 30 ans, vainqueur de plusieurs étapes, que ce soit en ligne l'année passée à Mulhouse ou sur des contre-la-montre dans ce Tour de France, qui va aller chercher ce qu'il a manqué ces derniers jours pour quelques secondes. Il était à 1 seconde au général de Fabian Cancellara ce matin. Il était à nouveau dauphin du maillot jaune Christopher Froome pour une petite seconde. Il est désormais à 200 mètres de la ligne d'arrivée et l'Allemand de l'équipe Etik Quick-Step qui se retourne à 150 mètres de la ligne maintenant derrière Edvald Boasson-Hagen, le champion d'Autriche, emmène John Degenkolb. Mais Tony Martin fait coup double ici à Cambrai dans 25 mètres maintenant. Il lève sa main droite, il a gagné ici à Cambrai pour 3 petites secondes devant John Degenkolb, devant Greg Van Avermaet, devant Peter Sagan et Edvald Boasson-Hagen. Parfait coup tactique.
Bravo.
Et physique.
Bravo.
Quel sens de la course ce Tony Martin est bien l'égal de Fabian Cancellara.
Surtout quelle jambe.
Ah oui oui, c'est incroyable. Après avoir passé la journée sur les pavés, résister comme ça au retour du peloton, même si derrière c'est un petit peu temporisé, Cyril, et les coureurs de la formation Sky ont roulé, mais sans vraiment rouler quoi. Ils ne voulaient pas défendre le maillot à tout prix, on a l'impression.
Honnêtement, ils ont laissé partir. Troisième Sagan et quatrième Van Avermaet.
Très bien, magnifique coup double donc pour Tony Martin. Ça faisait un moment que Martin à la plage, Martin cherchait le maillot jaune, mais là aujourd'hui Martin sur les pavés, Martin coup double.
Et Martin au podium, pour la victoire d'étape et pour le maillot jaune. Rappelons-nous tout de même qu'il avait terminé deuxième du contre-la-montre inaugural du Traire pour rien, pour 5 secondes. Il avait été battu par Rohan Dennis, l'Australien. Le lendemain à Zélande, c'est Fabian Cancellara qui vient le dépasser au classement général et qui lui souffle le maillot jaune pour une seconde.
Pierre-Yves Leroux est en compagnie de Romain Bardet,
Romain Bardet, mais il n'a pas voulu s'arrêter finalement, il a préféré filer. Ce que je vous propose, c'est de filer moi aussi, et je vais tendre le micro à Alberto Contador tout de suite.
La gente como iba por detrás, pero pegaba muchísimo viento de cana en los tramos, eso hacía que Arrada se fuera relativamente cómodo. Pero bueno, contento, hemos salvado el día sin problemas. Pese à la avería mécanique,
on n'a pas vraiment regardé qui y avait derrière, mais on a fait le principal en restant devant. Et aujourd'hui, on n'a pas perdu de temps, il n'y a pas eu de problème mécanique, c'est bien le principal.
Ayer, la verdad, que fui con muy buenas sensaciones todo el día, pero al final, la verdad, no sabría explicar bien, pues no respondieron como me hubieran gustado, pero.
Hier, c'était une journée un peu différente, j'avais eu des bonnes sensations pendant toute la journée et sur la ligne d'arrivée, j'avais lâché du temps.
Evidentemente me gustaría sacar ventaja a Froome, me la saca la mía ahora, pero todavía está todo el tour por delante.
Oui, Froome avait tiré avantage de l'étape d'hier avec cette arrivée au mur de 8. Cette fois, on a fait jeu égal et c'est bien l'essentiel.
Exactement.
Apparemment, Contador, qui ne voulait pas prendre de temps aujourd'hui, mais résister à Froome et aux autres spécialistes de pavé.
Et mission accomplie pour Froome, pour Contador plus exactement, et pour tous les fantastiques ou pseudo-fantastiques, puisqu'ils sont tous arrivés dans ce groupe de tête, alors qu'un deuxième groupe va en terminer dans quelques instants. Est-ce que c'est dans ce deuxième groupe que se trouve Thibaut Pinot?
Oui, tout à fait.
Donc le retard sera d'environ 3 minutes, c'est ça le dernier pointage nous indiquait 3 minutes de retard tout à l'heure. Hein.
Oui. Nous sommes à 2 minutes 58, 3 minutes 02 actuellement.
3-0-2 avec Purito Rodriguez, me semble-t-il, aussi dans ce groupe. Le vainqueur d'hier au mur d'huile, c'est pas là. Non, c'est pas lui.
Non, je crois
qu'il est devant.
Rodriguez, est dans le premier groupe. C'est Giampaolo Caruso, son coéquipier italien, qui est là.
Il y a 3:30 au moins.
Le compte est bon et le tour est bouclé, en tout cas en ce qui concerne le général. Maintenant 3:20 exactement de retard sur la ligne pour Thibaut Pinot. Pinot qui a été maudit et qui a vraiment eu une attitude dépitée, on le serait à moins, sur cet avant-dernier secteur pavé du jour. C'est lui la grande victime de cette étape pavée. Au final, il n'y en a eu qu'un, en tout cas en ce qui concerne le classement général. Greipel et Christophe sont passés par la fenêtre, mais là on ne parle que des potentiels vainqueurs d'étape. Thibaut Pinot, lui, a perdu pour de bon le général. Maintenant, le boulot dans l'équipe FDJ, ça va être de remobiliser le coureur franc-comtois. Plus forcément pour un podium pour le classement général comme il l'avait fait l'an passé, mais pour une victoire d'étape en montagne si possible. Le tour est loin d'être terminé, en tout cas on a vécu un début de Tour de France particulièrement intense.
Pierre-Yves Leroux qui justement est en train d'essayer de faire réagir Thibaut Pinot. C'est pas facile, Pierre-Yves, il faut courir vite là. Oui,
exactement, il faut courir. On est dans la rue du Général de Gaulle, ça va peut-être me donner des ailes. Cours vers les bus. Je lui ai demandé à Thibaut, il a dit un peu plus tard. Donc je cours derrière lui et puis on va essayer de l'avoir dans quelques instants.
Ouais, il faut bien reprendre son souffle. Hein, c'est pas évident comme
la
ça.
Balade
c'est
de Pierre-Yves.
La balade de Pierre-Yves. Il va finir le tour dans une condition incroyable. Tony Martin, entouré de tous ses équipiers de la formation Ethic Quickstep. Grosse joie, grande joie évidemment pour le rouleur allemand qui a fait preuve d'une maîtrise et d'une science de la course énorme, Fred, aujourd'hui. Hein.
Oui. La science du stratège, la science du trentenaire, mais la science du gros moteur qu'est Tony Martin. Martin. Tony Martin, multiple champion du monde, capable de s'imposer sur des étapes de moyenne montagne sur le Tour de France. On s'en souvient, l'an passé, il avait remporté l'étape de Mulhouse, le jour où Tony Galopin s'était paré de jaune. Cette fois, Tony Martin qui a attaqué à 3 km de l'arrivée, qui a bien compris que les Sky, qui étaient en train de protéger Christopher Froome à l'avant de ce groupe de tête, n'allaient pas rouler sur lui, parce que à la limite, pour Froome et ses Sky, c'était une bonne affaire de lâcher le maillot jaune. Derrière, on a mis un peu de temps à s'organiser. Les Giant Alpecin de John Degenkolb ont mis une dizaine de secondes à s'organiser et à prendre le relais de Geraint Thomas à l'avant du peloton. C'était trop tard. La souris Tony Martin s'était enfui et il était impossible avec un tel rouleur et dans ce final assez casse-pattes, assez tortueux, de reprendre la moindre seconde à un tel rouleur. Il compte ce soir 12 secondes d'avance au général sur Christopher Froome.
En tous les cas, une nouvelle fois, notre devin Fred a eu du nez lorsqu'il a annoncé le titre de l'étape. Tu nous proposais les pavés à couche d'une souris, parce que pour le classement général, mis à part Martin qui passe devant Froome, mais évidemment Martin ne sera pas un client pour le classement général, tout le monde tous les grands favoris en tous les cas se sont neutralisés, Cyril, aujourd'hui.
Oui, puisque y compris Quintana, il a réussi à arriver devant. En fait, parmi les favoris, il y a Thibaut Pinot qui a perdu donc beaucoup de temps. Et puis côté français, on peut également dire que Villermoz a raté le coche aujourd'hui. C'est dommage parce qu'il avait fait une belle course. Sinon, il n'y a pas eu d'écart. On a dit il y avait ce vent de passe qui a un peu paralysé la course. Ensuite, on a fait le final uniquement pour la victoire d'étape et la prise du maillot jaune. Ça a d'ailleurs été la même chose, mais c'est quand même un très beau vainqueur. Mais on a eu une petite souris aujourd'hui à l'arrivée, ce qui ne remet pas en cause la classe et le talent de l'Allemand, mais sur le classement général, il n'y a que les Français qui ont reçu.
Pas tous, heureusement, pas tous, car on le rappelle, Nasser Bouhanni, Tony Galopin, Brian Coquart, ou encore Romain Bardet et Warren Barguil.
Barguil, très bien.
Barguil qui est.
Oui, non, mais si, attends, si on dit les Français ont reçu, on a deux sprinters qui ratent leur sprint.
Ouais. Pierre-Yves, en compagnie d'un coureur derrière la ligne.
On va essayer de tendre le micro à Thibaut Pinot.
Très bien.
Oula, ça va être pas facile.
Dans la voiture, c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'il faut avoir un bon numéro. C'est quoi là, vous avez les bouts tout simplement, vous êtes frustré, écœuré parce que le tour est en tout cas fini pour le général ce soir.
Ouais, c'est sûr. Voilà, mais on va voir avec l'équipe ce soir et si on retrouve des nouveaux objectifs. Le tour n'est pas fini, il reste 2 semaines et demie, donc voilà.
Le talent est toujours là.
Bah, j'espère.
Merci. Thibaut Pinot, couvert de boue évidemment, qui s'éloigne un petit peu vers le bus. Et Marc Madiot qui n'est pas loin non plus pour son coureur, bien sûr. On va l'écouter, tiens, Marc Madiot.
Marc, il y a le sentiment d'être un peu maudit là depuis le début de ce tour.
Ouais, mais c'est la course. Hein. Il y a des années ou des moments où ça va bien, d'autres où ça va moins bien. On n'est pas dans la bonne série. On va d'abord penser à la santé de William en premier. Ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça ne l'est. Donc, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Et puis, la course, il fera jour demain. Il y a encore 2 semaines de course, il y a des belles étapes pour Thibaut, on va voir comment on procède. Il y a encore matière à s'exprimer.
Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'incident?
Je ne sais pas du tout. Je suis comme vous, j'étais dans une voiture devant, donc on verra ça avec les mécanos ce soir.
Ça vous touche de voir l'agacement de coureur?
C'est normal, hein, tout coureur donne le maximum pour être dans le coup. Je pense qu'il était plutôt pas trop mal puisqu'il était quand même dans le bon groupe où il fallait. Tout ce groupe va à l'arrivée en fait. Hein. Donc il serait sûrement mieux à l'arrivée avec eux. Après, c'est comme ça, c'est pas de chance.
Ça veut dire que vous allez jouer les victoires d'étape désormais?
On va d'abord récupérer et on refera le point demain matin.
Marc, je pense que Thibaut il est à même de sortir de cette dynamique.
La course, c'est une course de vélo. Hein. Après, il va falloir rebasculer sur autre chose. Et puis dans 3-4 jours, on est. Donc la vie va changer à nouveau, dans un autre sens.
depuis Thibaut Pinot, un peu à bout de nerfs. Déjà hier, il était très tendu après la chute. Est-ce que finalement, c'est la suite de ce qui s'est passé hier?
Non. Le vélo, c'est le vélo. Le vélo, lui, il n'a pas d'état d'âme. C'est le dérailleur qui décide à un moment ou à un autre de ne pas marcher. Donc, ça ne se passe pas dans la tête du dérailleur.
La pancarte du favori pour lui arriver
sur le dos. Non, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui là? Les bagnoles sont derrière les groupes, ce qui est normal. Bon, bah voilà, c'est tout. Après, il y a la chute d'hier, il y a un mauvais enchaînement. Bon, à défaut, ça s'enchaîne bien. L'an dernier, ça s'était globalement très bien enchaîné pendant 3 semaines. Cette année, c'est l'inverse.
Est-ce que la FDJ a un plan?
Et on va se reconcentrer sur les jours qui viennent, étape par étape.
Juste pour expliquer, Marc, vous ne pouvez pas changer de vélo.
Voilà la réaction de Marc Madiot, donc le manager de la formation FDJ, qui garde son calme, Cyril, mais qui évidemment ça doit bouillir sous le crâne de Marc. Maintenant il a raison, hein, c'est le derrière qui décide, et les derrière n'a pas d'état d'âme. Mais bon, aujourd'hui il y avait malheureusement pas grand chose à faire d'autre.
Hein. Oui, bah, de toute façon il est dans le directeur sportif ou le manager, puisqu'il est en position de manager, ne peut pas agir à partir du moment où les coureurs sont partis sur les événements. Oui, il garde son calme. Bah, après qui voulez-vous qu'il gueule?
Eh oui, de toute façon.
Ouais. Donc il faut rester calme, il faut rester serein, même si c'est évident que c'est pas du tout ce qu'il avait rêvé, c'est pas du tout ce qu'il avait espéré. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre?
Bien sûr. Fred, rapidement, on rappelle donc les résultats de l'étape et le classement général et l'issue de cette 4e étape et l'arrivée ici à Cambrai.
Victoire en solitaire de Tony Martin, le trentenaire allemand, excellent rouleur, qui est sorti vivant des secteurs pavés, qui a démarré à 3 km de l'arrivée. Il s'impose avec 12 secondes d'avance sur un groupe de favoris où personne n'a craqué excepté Thibaut Pinot sur incident mécanique. Deuxième, Degen Kolb. Troisième, Sagan. Au classement général, Tony Martin prend le maillot jaune à Christopher Froome. Le Britannique est à 12 secondes de Martin au général. Van Garderen 3e, Tony Galopin est 4e du général à 38 secondes. Martin qui fait coup double, étape et jaune.
Parfait, il est 17h48, on se quitte quelques instants et on revient pour conclure cette 4e étape du Tour de France. Donc il a accouché d'une souris, sauf pour Pinot qui malheureusement a course perdue. À tout de suite sur RMC dans l'Intégral Tour.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Pour les dernières minutes de l'Intégral Tour, ensuite évidemment les analyses avec Virginie Fulpin à partir de 18h, Journal des Sports, et nous reviendrons à 19h. On va derrière la ligne d'arrivée car Pierre-Yves Leroux a un nouveau client, un client breton en plus. Donc là on va te laisser faire. Warren Barguil
qui est sur les rouleaux, effectivement, qu'on va écouter tout de suite.
Qui a l'air tellement cauchemardesque pour vue de l'extérieur.
Non, c'est pas cauchemardesque, non, c'est... Il y a du plaisir, mais quand on est devant, il y a toujours du plaisir. Mais quand on est au milieu du paquet, je pense que c'était pas forcément plaisant d'avoir la poussière de ceux qui sont passés devant.
Mais tout le pavé qui tape, c'est brutal, c'est violent, c'est tout ce qu'on veut.
Ouais, mais quand on fait de la montagne, c'est pareil, on a mal aux jambes autant que sur les pavés, donc c'est des choses qui se ressemblent.
Ryan, tu avais envie d'être devant dans tous ces secteurs, c'était important.
Ouais, c'était important pour John, que je lui montre que je suis là pour l'aider et que si problème, j'étais là et c'était surtout ça le but, c'était pas pour moi.
C'est une première semaine pour l'instant qui se passe très bien.
Ouais, ça se passe bien, mais on n'est pas encore à la fin de la première semaine, donc faut attendre.
Qu'est-ce qui explique ton bon début de tour? Est-ce que tu découvres?
Qu'est-ce qui explique? C'est que je m'entraîne, je sais pas. Je fais une grosse remise en question après mon début de saison difficile, après les chutes. J'ai beaucoup travaillé avec l'équipe. On allait en stage 3 semaines à la Sierra Nevada, pas voir sa famille et sa copine. Et les sacrifices, on y pense au début du tour. C'est pour ça que je lâche rien.
T'étais venu pour quoi sur ce tour? Pour découvrir ou pour visiter?
Non, c'est vraiment pour découvrir. Parce que, comme j'ai dit, la Volta, ma première Volta, j'étais parti pour découvrir aussi. C'était un peu pareil. La première semaine, j'étais bien placé. Et puis, il y a eu une chute juste avant le premier jour de repos. Donc, ça peut arriver aussi ici. Et vraiment voir au jour le jour.
Est-ce que tu t'étonnes de passer les pavés parce que c'est aussi une découverte pour toi?
Non, j'ai toujours été un peu casse-cou, donc ça m'étonne pas trop.
Voilà, Warren Barguil qui se met en danseuse sur les rouleaux et qui va terminer comme ça. Et il va pouvoir rentrer au bus dans quelques instants maintenant après cette étape compliquée. Je peux vous dire que le visage est marqué sur tous les visages. C'est impressionnant. La boue, évidemment, avec la sueur. Vous imaginez un petit peu le tableau. Ils vont bien dormir. Enfin, j'espère pour eux.
Ils vont bien dormir. À la différence de Paris-Roubaix, il n'y a pas les douches à l'arrivée là pour les coureurs. Même si c'est plus vraiment le cas. Ils se douchent plus maintenant dans les grandes salles de douche à Roubaix sur le vélodrome, Fred. Hein.
Oui, ils se réfugient tous pour
dans les camions,
le plus grand désespoir des suiveurs qui espèrent les voir. Non, ils vont tous dans les camions prendre la douche. Les Pullman sont parfaitement bien équipés.
C'était une vraie tradition. Avant, tout le monde allait dans les douches. Et effectivement, pour les chasseurs d'autographes, c'était parfait. On venait là à la sortie des douches pour faire signer un petit autographe. Warren Barguil, qui est donc ce soir 11e général, avec un retard d'une minute 19. Ici, c'était lui, le grand espoir français qu'on pouvait espérer voir dans le top 5, dans le top 10, dans le top 3, dans quoi ? On en parlera peut-être tout à l'heure.
Ça fait deux ans qu'on l'annonce avec Cyril, notamment sur cette antenne. Ouais. Warren Barguil est la pépite annoncée. Lui, l'ancien vainqueur du Tour de l'Avenir. Il est capable de faire de très très belles choses et il n'a pas fini de nous étonner sur ce tour.
Et il n'est pas premier français au général, non. Car c'est toujours Tony Galopin, lui aussi, sacré coursier, qui conserve sa quatrième place aujourd'hui avec un petit peu plus de retard puisqu'il est désormais à 38 secondes de Tony Martin, mais il a terminé dans le premier groupe. Donc Tony Martin, vainqueur d'étape et porteur du maillot jaune ce soir. Voilà le principal enseignement de la journée. Chris Froome a rendu son maillot pour mieux le récupérer dans quelques jours. Thibaut Pinot, lui, a abandonné toute idée de remporter le Tour de France ou même de figurer sur le podium de ce tour. Voilà pour le direct. On va évidemment se retrouver dans quelques minutes. Cyril Guimard sera avec Virginie Fulpin. En attendant, c'est le récap des courses avec Frédéric Zermati. Salut Fred.
Salut Christophe, c'est Laurent Guédard.
C'est Laurent Guédard, très bien. Bonjour Laurent.
Ah, bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. L'arrivée du quintet de cet après-midi à Châteaubriand, c'est le 15, Tagada. Tagada qui s'est imposé devant le 16, Vesman. La troisième place pour le 6, Telmino Lies. La quatrième pour le 3, Paparazzi. Et c'est le 5, Hudson de Retz qui se classe cinquième. À noter que le numéro 10, Tom Rush, arrivé initialement quatrième, a été disqualifié après enquête des commissaires. 15, 16, 6, 3 et 5. Le quintet rapporte 6672 euros dans l'ordre. Demain, nous restons avec les trotteurs, mais cette fois-ci sur les pentes d'Anguin. Ils seront 16 à s'élancer sur le parcours des 2150 mètres avec un départ donné à l'aide de l'Autostar. Cédric de Génie Course m'a rejoint. Bonjour Cédric.
Bonjour à tous.
Alors, quels sont les bons bruits pour ce quintet ?
Un coup de poker avec le numéro 5 Vent d'Ouest qui reste sur deux disqualifications. À chaque fois, c'était au départ. J'espère que l'Autostar, cette fois-ci, va l'aider dans sa tâche. S'il reste au trot, c'est un Laurent en puissance.
Alors moi je vous conseille tout d'abord le numéro 2, Ustiofor, qui est partie elle aussi au galop dernièrement sur cette piste alors qu'elle était la grandissime favorite. Elle trouve cette fois-ci une très belle occasion de se réhabiliter. Elle peut monter sur la plus haute marche du podium. Et je me méfie également de l'as Soleil du Verger, un redoutable finisseur qui peut confirmer son récent regain de forme. Et je vous rappelle que d'autres paris, des informations sont disponibles sur rmcsport.fr.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Laurent. 17h57 sur RMC. Voilà, première partie de l'intégral tour qui s'achève. Le direct. Mais Virginie Fulpin est là pour vous faire vibrer et vous raconter tout ce qui va se passer. Et il y a un beau programme ce soir. Salut Virginie.
Salut Christophe. Ça va aller le short en jean sous la pluie ?
Oh oui, je suis magnifique. Je sais que tu n'aimes pas les shorts. Elle aime que les garçons en jupe, les Écossais, voyez-vous. Donc,
voilà, exactement.
Donc je vais mettre une jupe pour lui plaire.
Alors, je sais pas s'il a un short en jean, mais Cyril Guimard sera avec moi avant 18h30 pour revenir sur cette étape du Tour de France. Bien sûr, Arnaud Clément, le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, sera là aussi. On est à 10 jours de Grande-Bretagne-France. Et puis, le 15 de France, les gardiens du PSG également au programme. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.